Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette conférence. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de partager ce moment avec vous parce que cette conférence, ça fait vraiment longtemps que je voulais la faire et ça va être l'occasion pour moi de partager des idées et des valeurs qui me sont chères. Alors avant de commencer, avant de vous dire un peu qui je suis puis de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous distribuer des papiers où vous pourrez, si vous le souhaitez bien sûr, mettre vos coordonnées. Et à la fin de l'atelier, à la fin de la conférence, je ferai un tirage au sort. Et la personne qui sera tirée au sort pourra gagner un livre parmi ces trois que j'ai sélectionnés. Voilà. Donc on va vous les distribuer là. Alors, pendant que les papiers vont se distribuer, je vais vous faire une petite présentation de qui je suis. Alors, je suis Martine Lévy-Samama. Je vais peut-être vous écrire mon nom. Donc je suis Martine Lévy-Samama et j'exerce la profession de psychothérapeute et coach. Alors, en fait, ce métier-là, ça n'a pas toujours été mon métier, c'est-à-dire que quand j'étais, donc après mon bac, j'ai fait des études d'informatique. Et donc j'ai travaillé en informatique pendant de nombreuses années. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire, ce n'était pas du tout ce qui m'intéressait. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est l'humain. Et tout ce qui concerne la psychologie humaine. Donc j'ai repris des études, j'ai refait une formation dans une école qui s'appelle l'EPC, c'est l'école de psychologie clinique à Aix-en-Provence. J'ai fait également un institut de psychanalyse à Arles, et j'ai fait une école qui s'appelle l'Union Formation, et qui est d'ailleurs qui est ici au salon, sous le nom de Coaching Intuition. C'est Gilles et Vanessa qui vont faire aussi des conférences. Donc ça c'est pour mes formations. Alors parallèlement à ça, bien sûr, j'ai fait moi-même une thérapie. Cette thérapie a duré 5 ans et demi. Elle a été composée d'une thérapie analytique, d'une psychanalyse, et le tout ponctué par des outils de thérapie brève comme le MDR. Alors, pour ce qui est de ma pratique en psychothérapie, donc je me suis inspirée bien sûr de ma propre thérapie, de tout ce que moi j'ai vécu en tant que patiente. Donc dans ma pratique, j'utilise la thérapie analytique. Alors la thérapie analytique, en fait, ça part sur les mêmes bases que la psychanalyse, c'est-à-dire que on se sert des associations libres, des actes manqués, des lapsus freudiens, de tout ce qui est sémantique, mais à la différence de la psychanalyse où on est allongé, en thérapie analytique, on est en face à face, et moi dans ma pratique, je dirais même qu'on est un petit peu de trois quarts, c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment face à mon patient, parce que je trouve que le patient, des fois, il a besoin d'être un peu replié sur lui-même, un peu à l'intérieur de lui-même, et de ne pas avoir tout le temps à soutenir mon regard. Je trouve que c'est positif pour sa thérapie. Alors, à côté de cette thérapie analytique, qui est vraiment ma pratique de base, je me sers aussi d'outils de coaching, et je me sers aussi de travail avec de la visualisation, des fois. Et d'ici la fin de l'année, j'attends ma certification au niveau des États-Unis pour tout ce qui est travail en hypnose ericksonienne. Voilà pour qui je suis. Alors, cette conférence, vous l'avez vu dans le titre, donc c'est un psy, oui, mais pourquoi faire et lequel? Donc en fait, elle va se composer de trois parties. Et la première, c'est un psy. Alors, pour commencer, je vais vous faire un peu d'humour. Et je vais vous citer un comique que j'aime beaucoup qui s'appelle Gad Elmaleh. Et Gad Elmaleh, il nous dit quand on va voir le médecin, on dit « je vais voir le médecin ». Quand on va voir l'ophtalmo, on dit « je vais voir l'ophtalmo ». Mais quand on va voir son psy, on dit « je vais voir quelqu'un ». Ou alors « je me fais suivre ». Et il se retourne comme ça d'un air inquiet. Et là, on voit finalement tout le côté tabou de la psy, on voit que c'est quand même pas une, c'est quand même pas un métier comme les autres, quoi. C'est quand même quelque chose d'un peu particulier et on n'ose pas trop dire souvent qu'on fait une thérapie. Donc c'est encore un peu tabou, et ça malgré le fait que c'est vrai qu'il y a des journaux, il y a pas mal d'émissions télé qui parlent de la psy, mais ça reste encore tabou. Et puis notre société en fait elle nous vend que ben on doit être un peu Superman, Superwoman, qu'on doit s'en sortir tout seul, que si on s'en sort pas tout seul, ben c'est qu'on n'est pas capable de le faire, c'est qu'on est faible, elle nous vend plein d'idées comme ça, plein d'idées reçues. Et du coup, y a beaucoup de gens qui se disent « moi, je vais m'en sortir tout seul ». Donc ça, c'est une première idée reçue. Ou alors, on entend dire aussi « le psy, c'est pour les fous ». Donc moi, je ne suis pas fou, je n'ai pas besoin d'y aller. Alors, c'est vrai que les mentalités changent, on l'entend de moins en moins, mais autour de moi, je vous assure que j'ai encore des gens qui raisonnent comme ça. Alors, moi, c'est vrai que je suis partie prenante là-dedans, parce que moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça, mais bon, ce n'est peut-être pas très objectif. Et moi, je pense qu'au contraire, se rendre compte qu'à un moment donné, dans sa vie, on tourne en rond, se dire qu'on n'arrive plus à avancer, se dire que là, on est face à un problème et on n'avance pas, on est un peu comme un hamster dans sa roue et on tourne en rond, quelque part, je trouve que c'est avoir une certaine lucidité sur soi. Et au contraire, moi, je trouve que c'est une force. Et franchir la porte d'un thérapeute, je trouve que ça demande beaucoup de courage et ça demande beaucoup d'humilité de soi vis-à-vis de soi. Et je pense que c'est au contraire une force. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu tous les types de psy qui existent, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement que moi, je me suis rendu compte que les gens, ils sont un petit peu perdus dans toutes les catégories de psy. Donc, je vais vous donner toutes les catégories qui existent, dans un ordre tout à fait aléatoire. Il n'y a pas du tout de niveau hiérarchique ou quoi que ce soit. Alors, la première catégorie que je vais aborder, ce sont les psychiatres. Alors, les psychiatres, dans le domaine de la psy, ce sont les seuls à être remboursés par la sécurité sociale et être habilités à prescrire des médicaments. Ce sont les seuls. Alors, dans leur cursus traditionnel, donc quand ils font leurs études de médecine, ils font une spécialisation en psychiatrie. Et dans cette spécialisation, on les forme essentiellement à tout ce qui est psychopathologie, à tout ce qui est maladie mentale, et ils sont extrêmement bien formés pour ça. Alors, dans leur cursus traditionnel, donc je dis bien dans leur cursus traditionnel, c'est-à-dire à la fac de médecine, ils ne sont pas formés à la psychothérapie. Ça ne veut pas dire que tous les psychiatres n'y sont pas formés. Il y en a qui se sont formés, mais ils ne s'y sont pas formés à la fac. Ils ont fait des études en plus pour se former à la psychothérapie. Et dans leur code de déontologie en tant que médecin psychiatre, on ne leur demande pas de faire un travail personnel, de faire une thérapie personnelle. Alors bien sûr, il y a beaucoup de psychiatres qui ont fait un travail sur eux, mais ce n'est pas une obligation. Déontologiquement, ce n'est pas une obligation, on ne leur demande pas. Donc ça, c'est pour les psychiatres. Après, il y a les psychologues. Alors les psychologues, en fait, ils ont fait un DESS de psychologie, donc ils ont un niveau Bac plus 5. Et dans le domaine de la psychologie, il y a plusieurs... plusieurs chemins. Donc il y a de la psychologie sociale, il y a de la psychologie clinique. Et selon la voie qu'a fait le psychologue, il est ou pas formé à la psychothérapie. Il y a des voies où ils sont formés et des voies où ils ne le sont pas. Et dans leur code de déontologie, ils ne sont pas obligés d'avoir fait un travail sur eux. Beaucoup de psychologues en ont fait, mais ce n'est pas une obligation. On ne peut pas le leur reprocher, ce n'est pas obligatoire pour eux. Ensuite, il y a les psychanalystes. Alors, les psychanalystes, ils ont fait eux-mêmes une psychanalyse, c'est obligatoire, donc en général assez longue. Et souvent, ils se sont formés, ils font partie d'une association de psychanalyse, où ils ont fait une école de psychanalyse. Et donc, eux, en général, dans leur pratique thérapeutique, ils ne proposent souvent de la psychanalyse. Alors, il y en a qui se sont diversifiés, qui proposent aussi autre chose. Il y en a qui sont restés dans la psychanalyse, ça dépend. Donc ça, c'est pour les psychanalystes. Et enfin, la dernière catégorie dont je fais partie, ce sont les psychothérapeutes. Alors, les psychothérapeutes, il faut savoir qu'actuellement, en France, le titre n'est pas réglementé. Alors, il y a une loi qui a été votée, mais dont les textes d'application ne sont pas encore parus au journal officiel. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. Donc, le titre n'est pas réglementé. Alors, bien sûr, pour être psychothérapeute, quand on est sérieux, on va pas se, même si la loi ne nous impose rien, bien évidemment, on ne peut pas être psychothérapeute comme ça. Donc, les psychothérapeutes, en général, ils ont fait un institut privé parce que la psychothérapie ne s'apprend pas à la faculté. Il n'y a pas d'école d'État qui forme à la psychothérapie. Donc, quand on veut devenir psychothérapeute, on a que le choix de faire une école privée. Il n'y a que ça. Et dans la déontologie du psychothérapeute, il est obligatoire de faire une thérapie personnelle. C'est obligatoire dans la déontologie. Maintenant, vous trouverez toujours des psychothérapeutes qui n'en ont pas fait, qui ne sont pas sérieux, qui n'en ont pas fait. Ça, ce n'est pas une garantie. Alors moi, justement, par rapport à ce problème qui me sensibilise beaucoup, parce que je trouve que quand on a la souffrance de quelqu'un entre ses mains, on ne peut pas faire n'importe quoi. Moi, je me suis fédérée donc, à une association qui s'appelle Psy en Mouvement. Et donc, tous les psychothérapeutes qui sont fédérés dans des associations comme le SNP Psy, la FF2P, Psy en Mouvement, pour être fédéré, il faut donner des justificatifs de ce qu'on a fait comme étude, du travail sur soi qu'on a fait, etc. Et pour le patient, c'est quand même un gage de sérieux. Donc déjà, ça permet de savoir à qui on a affaire. Donc voilà pour toutes les catégories de psy. Ça va ? Vous ne vous endormez pas ? Alors maintenant, donc ça c'était la première partie, donc un psy. Oui, mais pourquoi faire ? Donc finalement, qu'est-ce qu'on va aller chercher chez un psy ? Alors en général, ce qui fait consulter, c'est la souffrance. C'est-à-dire que c'est vraiment quand on est en grande souffrance, c'est vraiment quand on ne va pas bien du tout qu'on va consulter un psychothérapeute. Enfin, un psy en général d'ailleurs, pas forcément qu'un psychothérapeute. C'est quand vraiment ça ne va pas. Donc la souffrance, je dirais que c'est vraiment l'élément déclencheur pour aller consulter un psy. Alors après, ça peut être un problème spécifique. Par exemple, on peut être en période de licenciement, on n'est vraiment pas bien, on perd ses repères, on sent qu'on est en train de perdre pied, par exemple. Et donc, on va aller consulter ponctuellement pour avoir un soutien, pour avoir une écoute, pour trouver des ressources en soi. Ça peut être aussi un choix de vie difficile à faire. Par exemple, une personne qui n'est pas bien dans son couple et qui ne sait pas si elle doit divorcer, si elle doit entreprendre une thérapie de couple, si elle doit entreprendre une thérapie personnelle, elle ne comprend pas bien ce qui se joue. Et là, ben, elle est un peu perdue et elle essaye pour résoudre ce problème donc de consulter. Donc là, c'est vraiment un choix de vie difficile à faire. Après, ça peut être plein d'autres choix, bien évidemment. Alors moi en fait l'image qui me vient, je vous l'ai déjà donnée tout à l'heure, c'est ce mal de vivre qui fait que ben, on n'arrive plus à apprécier nos journées, on n'arrive plus à trouver le bonheur dans la vie. En fait on n'est pas bien, on sait pas vraiment pourquoi on n'est pas bien, on ne sait pas vraiment ce qui se passe en nous, mais on sent qu'on n'est pas bien, on se lève le matin, on est triste, on prend goût à rien, on a envie de rien, sans que ce soit une franche dépression, ça peut être aussi de la dépression latente, ça. Mais des fois, ce n'est pas franchement de la dépression, mais c'est une perte du goût de vivre, un mal-être, et on ne sait pas franchement qu'est-ce qui ne va pas. Et ensuite, la dernière chose qui peut faire consulter, le dernier élément, c'est des troubles physiques sans aucun désordre organique. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont des souffrances, ils ont des maux de dos, ils ont des souffrances physiques dans leur corps, et ils sont allés voir leur médecin, ils sont allés voir des spécialistes, ils ont fait des tas d'examens, des prises de sang, des scanners, et leur médecin ne leur trouve rien. Et je veux dire, on ne leur trouve vraiment rien. À un moment donné, leur médecin, il est vraiment perdu. Il leur dit, mais écoutez, vous n'avez rien. Mais la personne, elle est en souffrance, elle, quand même. Donc la souffrance, elle est bien réelle. Mais le patient, ben, on ne lui trouve rien au niveau physique. Et en fait, le médecin arrive à lui dire, ben, votre problème est d'ordre psychosomatique. Et psychosomatique, il y a le mot psycho dedans, donc un problème d'ordre psychique. Alors à ce sujet, il y a une belle phrase de Jacques Salomé que j'aime bien citer. Alors Salomé nous dit « Les mots, M-A-U-X, parlent plus fort que les mots, M-O-T-S, ils se crient dans le silence des mots, M-O-T-S. » Donc en fait, c'est vraiment pour nous expliquer que quand on n'a pas pu mettre des mots sur notre souffrance, quand on n'a pas pu mettre des mots sur ce qui ne va pas en nous, des mots M-O-T-S, eh bien, c'est le corps qui nous exprime notre souffrance par des mots M-A-U-X. Et donc la maladie, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est vraiment l'expression de quelque chose qui ne va pas bien en nous, et il y a toujours quelque chose d'origine psychique. Pour moi, dans le physique, il y a toujours une petite origine, une petite ou même une grande origine psychique. Après, bon, ça, c'est chacun a ses idées là-dessus. Alors là, je vous ai cité donc les motifs principaux qui fait qu'on va consulter un psy. Mais après, au-delà des motifs principaux, il y a ce que j'appelle le cadeau caché. C'est-à-dire qu'il y a ce pourquoi on va voir le psy. Alors ça, il vaut mieux quand même que ce soit traité par le psy et résolu par le... Enfin, par le psy. Que ce soit résolu en thérapie et que le patient soit aidé par rapport à sa demande. Ça, c'est déjà un bon pas. Mais ce qui est important surtout, et ce qu'on se rend compte quand on fait une thérapie, c'est qu'il y a un cadeau caché. C'est-à-dire qu'au-delà de ce pourquoi on est allé consulter, eh bien, il y a autre chose qui se crée. Il y a autre chose de super. Alors en fait, dans une psychothérapie, le patient est amené à trouver sa solution. Parce que la solution, il n'y a qu'une personne qui la possède, c'est vous. Et elle est au fond de vous. Et ce qui vous manque, en fait, ce n'est pas la solution. La solution, vous l'avez. Ce qui vous manque, c'est le chemin pour y arriver. Et souvent, cette solution, elle est tellement enfouie. Elle est tellement derrière des peurs, derrière des angoisses, derrière des idées reçues, derrière des a priori, que ben, vous n'arrivez pas à la voir. Mais elle est là, toutes les solutions sont en vous. Mais ce qui vous manque, c'est le chemin pour y accéder. Et ce que je pense aussi, c'est que, en fait, le bonheur, c'est quelque chose qu'on se construit. Et je crois que le bonheur, c'est sûrement pas le fruit du hasard. Je crois que le bonheur, c'est vraiment le fruit d'une multitude de prises de conscience. Et au plus on a des prises de conscience sur qui on est, sur ce qu'on vit, sur ce qu'a été notre vie, sur ce qu'a été notre histoire, et au plus on accède au bonheur, on accède à de l'épanouissement, on accède à de la paix intérieure, on accède à de la confiance en soi, on accède à de la confiance dans la vie. Toute cette confiance qu'on peut acquérir dans la vie, en soi, etc., ça permet aussi, quand on vit des événements de vie douloureux, parce que de toute façon, on en vit toujours dans une vie, on a toujours des difficultés, des choses difficiles à gérer, eh bien, toute cette paix intérieure et cette confiance en soi, eh bien, ça nous permet de prendre du recul, ça nous permet d'être plus fort face aux événements, d'arriver à prendre du recul, d'arriver à les voir avec un autre regard, sous un autre angle. En fait, c'est un peu comme un appareil photographique, et on était en macro, là, on voyait que ça, et à un moment donné, on arrive à tourner l'objectif, à se mettre en grand angle, et là, on arrive à voir le problème dans l'ensemble, et on arrive à être plus dynamique, à être beaucoup plus auteur de sa vie, et on arrive à prendre les choses en main. Et par rapport à ça aussi, ce qui est important, c'est de prendre les choses en main et en même temps d'avoir conscience qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut rien, sur lesquelles on n'a pas de prise. Et quand on arrive à faire le distinguo entre ce sur quoi on peut faire des choses et ce sur quoi on ne peut rien faire, c'est là où on commence à pouvoir lâcher prise. Parce que ce sur quoi on ne peut rien faire, à un moment donné, grâce au travail sur soi, on arrive à lâcher prise, on arrive à se dire, là j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, mais maintenant, c'est plus entre mes mains, quoi. Et je veux dire, là maintenant je fais confiance dans la vie et je lâche prise. Et ça, quand on arrive à faire ça, quand on arrive à être là-dedans, c'est vrai qu'on ressent vraiment beaucoup de paix parce qu'on a l'impression qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire. Alors évidemment, par le biais d'un travail personnel, on arrive à comprendre évidemment sa problématique, le nœud de toutes ses souffrances, celle de son partenaire, si on est allé en couple, et puis parce qu'en couple, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'énergie du couple. On sait qui on est, on comprend mieux qu'est-ce qui nous anime, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos idées, quel est notre chemin de vie, où est-ce qu'on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut vraiment finalement dans la vie? Et moi en thérapie, souvent quand les gens m'exposent leurs problèmes, une des questions que je leur demande, mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Et là, souvent, j'ai des gens qui me regardent avec des yeux ronds, puis ils me disent, mais je ne sais pas. Et donc, si on ne sait pas où on va aller, c'est difficile de trouver le chemin. Donc quand on sait, c'est déjà pas évident, mais si en plus on ne sait pas où on veut aller, le chemin, il n'est vraiment pas évident à trouver. Donc, dans la thérapie aussi, ce qui a un des apports majeurs de la thérapie, c'est beaucoup plus d'autonomie et beaucoup plus d'individuation. Alors, par rapport à l'individuation, je vais vous expliquer la construction de l'identité. Alors, la construction de l'identité, c'est vraiment intéressant. En fait, l'identité, elle se construit par deux éléments. L'identité, elle est construite essentiellement par le regard de soi sur soi et par le regard de l'autre sur soi. Alors, le regard de soi sur soi, c'est quelque chose qu'on construit petit à petit. Et dès notre naissance, en fait, dès qu'on est tout petit, on apprend qui on est. Alors, le tout petit enfant, il n'a même pas conscience de lui-même. Au tout début de la vie, le tout petit enfant, il a l'impression que lui et sa mère ne font qu'un, que lui et son environnement ne font qu'un. Il n'a même pas conscience que lui, il est un être à part entière. Et c'est tout au long d'un processus d'identité, d'individuation et toute une maturation psychique que le petit enfant prend conscience qu'il est un être à part entière avec deux bras, deux jambes. Donc déjà, il y a tout le schéma corporel qui se met en place parce que nous, ça nous paraît évident, mais quand on est tout petit, on n'a pas conscience qu'on a deux bras, deux jambes. Donc on prend conscience déjà de ce schéma corporel. Et après, on prend conscience de qui on est. Alors là, bien sûr, les parents, ils ont vraiment un rôle majeur à jouer parce que ben, c'est dans le regard des parents, dans la valorisation, dans toute cette reconnaissance parentale que l'enfant va construire son ego et va construire l'estime qu'il a de lui. Et ce regard de soi sur soi, il se construit toute la vie, même s'il se construit essentiellement, bien sûr, pendant les années de petite enfance, d'adolescence et de jeune adulte. Ensuite, il y a le regard, donc, je vous disais, de l'autre sur soi. Alors, le regard de l'autre sur soi, on en a tous souffert un jour ou l'autre. Et ce regard, il n'est pas toujours bienveillant. Et des fois, il est destructeur parce que l'autre va nous faire violence, va nous dire des propos méchants qui vont vraiment nous faire violence, nous agresser, nous faire du mal. Et la force qu'on peut avoir, justement, par rapport à ce regard de l'autre sur soi, qui est des fois bienveillant et des fois malveillant, eh bien, c'est de renforcer ce regard de soi sur soi. C'est-à-dire que plus le regard de soi sur soi va être construit, va être solide, plus on va savoir qui on est, plus on va avoir de la conscience de soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi, et plus l'autre, quand il va nous tenir des propos qui nous font violence, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les entendre, qu'on ne va pas entendre les critiques, qu'on ne va pas savoir se remettre en question. On va entendre, mais on ne va plus être détruit par l'autre. On ne va plus être anéanti par l'autre. On va entendre, on va se remettre en question, on va réfléchir. Et à un moment donné, on va être capable de dire, bah oui, cette personne, avec son idée, avec ses valeurs, elle a ce regard sur moi, mais moi, avec qui je suis, avec mes idées et mes valeurs, je ne suis pas d'accord avec elle et je laisse sa critique, je laisse sa violence de côté et je ne l'absorbe pas, je la laisse en dehors de moi et je fais en sorte qu'elle ne me fasse pas violence. Et pour ça, il faut vraiment avoir une image de soi sur soi, un regard de soi sur soi qui soit vraiment solide et construit parce que sinon, l'autre peut vraiment nous détruire. Et donc la thérapie, ça sert vraiment à ça, ça sert vraiment à s'aimer, à se respecter, à nourrir ce regard de soi sur soi. Alors, par rapport à ça, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Serge Hefèze, qui est psychanalyste. Il a écrit vraiment des livres super, vraiment passionnants. Et il nous dit une phrase, alors elle est un petit peu costaud, mais bon, je vais la lire doucement. « Il faut avoir suffisamment de narcissisme, d'estime de soi, pour ne pas se sentir contraint en permanence d'essayer d'être quelqu'un d'autre que soi-même pour obtenir l'amour de l'autre. » En fait, ça veut dire que si on a suffisamment d'estime de soi, eh bien, on est tel qu'on est, et autour de nous, il y aura des gens qui vont nous aimer, des gens qui ne vont pas nous aimer, des gens qui vont nous apprécier, d'autres qui ne vont pas nous apprécier, mais en tout cas, nous, on est nous, et on n'a sûrement pas envie de se changer pour plaire à l'autre ou pour quémander son amour. Et ça, c'est super important. Parce qu'à un moment donné, quand pour obtenir l'amour de l'autre, on essaie de se changer, on essaie de se transformer, eh bien on se perd et à un moment donné, on ne sait plus qui on est. Et là, on n'est vraiment pas bien. Quand on ne sait plus qui on est perdu et on est en grande souffrance. Alors moi, j'aime beaucoup la randonnée et j'aime beaucoup la nature. Donc j'ai envie de vous dire que pour moi, la thérapie, ben, c'est la plus belle des randonnées, parce que c'est celle qui mène à la découverte de soi. Voilà, donc là, c'était la fin de la deuxième partie, donc pourquoi faire? Et là, on va attaquer le gros du morceau, c'est comment choisir son psy, donc lequel? Alors là, comment est-ce qu'on va choisir son psy? Donc déjà, moi, je vais un petit peu cerner ce que je vais vous dire, parce que sinon, ça va être trop long. Donc déjà, c'est choisir un psy pour faire une psychothérapie. C'est-à-dire que si l'idée, c'est de dire « moi, j'ai besoin d'antidépresseurs et je suis pas bien, je veux quelqu'un qui me donne des calmants », vous allez chez le psychiatre, chez le médecin généraliste, il n'y a pas le choix, c'est chez eux, il n'y a pas d'autres médecins à aller voir. Donc, comment choisir son psy? C'est pour faire une psychothérapie. Donc, ben évidemment, si c'est pour faire une psychothérapie, je vous engage à choisir quelqu'un qui a été formé à la psychothérapie. Ça tombe sous le sens, mais bon, comme tout le monde n'est pas formé, il vaut mieux choisir quelqu'un qui a été formé. Après, la première chose, mais vraiment la première chose, faites-vous confiance. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on vous a dit, qu'au-delà des diplômes, qu'au-delà des titres, des formations, de tout ce qu'on peut vous donner, faites-vous confiance. Quand vous allez chez quelqu'un, si vous n'êtes pas bien, si ça ne va pas, si vous ne vous sentez pas de parler, si vous n'y allez pas volontiers, si cette personne, vous n'avez pas le sentiment qu'elle vous écoute, si vous ne la sentez pas en empathie avec vous, ben, n'y allez plus. Ne vous posez pas de questions, n'y allez plus. Et moi, pour moi, ce respect que vous allez vous accorder à vous-même, en vous respectant, en vous donnant de l'attention à votre ressenti, à ce que vous pensez, à ce que, face à cette personne, ben, ce psy, vous n'êtes pas bien. Il est peut-être super compétent, ça n'enlève rien à sa compétence, mais vous, quand vous y alliez, vous n'êtes pas bien. Et la thérapie, pour moi, elle commence là. Elle commence quand on se dit, ben, moi, avec ma sensibilité, avec qui je suis, ben, ce psy-là, il ne me convient pas. Peu importe qu'il ait des diplômes, des compétences, qu'il ait de l'expérience, qu'il ait tout ce qu'on veut, moi, il ne me convient pas et je vais en choisir un autre. Et la thérapie, elle commence déjà là. Elle commence par se faire confiance, s'aimer et se donner un psy qui nous convienne. Alors ensuite, un autre critère, c'est, qui est vraiment important pour moi, c'est que le psy, ce n'est pas un copain. Donc moi, j'entends autour de moi des fois des thérapeutes qui tutoient leurs patients, qui les prennent dans les bras. Enfin, il y a des thérapies où c'est l'objet de la thérapie. Je ne parle pas de ça, je parle des thérapies analytiques où le patient il arrive, on lui fait la bise, on le tutoie, presque on lui sert le thé, tout ça. Non, c'est pas une thérapie, ça. Je veux dire, le psy, c'est pas un copain. Et c'est important de garder cette distance. Et c'est pas pour être froid, parce qu'on peut être très chaleureux avec quelqu'un et très en empathie. Mais cette distance, elle est vraiment importante parce que c'est un espace dans lequel le patient va grandir, dans lequel le patient va travailler sur lui. Et cet espace, il faut le construire et il ne faut pas faire n'importe quoi dedans. Parce que sinon, le patient, ben, sa thérapie, elle ne sera pas productive pour lui, elle lui apportera pas le meilleur de ce qu'elle pourrait lui apporter. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est le respect de la demande. Il y a des patients qui demandent juste à traiter quelque chose de particulier. Ben, il faut respecter. On peut avoir des patients qui viennent surtout en hypnose, par exemple, ils veulent juste arrêter de fumer. Ben, ils viennent, ils arrêtent de fumer grâce à l'hypnose, on fait des séances et puis ça s'arrête là. Il y a des patients qui veulent soigner un symptôme particulier. Il y a toutes les demandes possibles et c'est important de respecter cette demande-là parce que c'est le patient qui décide où il veut aller et il n'est pas question de lui imposer quoi que ce soit. Et le bon thérapeute, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui est capable de vous faire avancer. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, alors je ne veux pas donner un temps trop court parce que chaque personne avance à son rythme et il faut respecter ce rythme-là, mais moi je dirais quand même qu'au bout de 6 mois, 8 mois, il y a des petites choses qui doivent changer, c'est-à-dire que vos façons de vous comporter, vos façons de réagir, votre vie, votre quotidien, il y a des petites choses, des petits signes qui doivent vous montrer que, quelque part, ben, votre vie, elle est en train petit à petit de prendre un tournant, qu'elle est en train de changer. Parce que si au bout de 6 mois, 8 mois, il n'y a toujours rien qui a changé, vous n'avez aucun résultat, il n'y a pas le moindre petit signe qu'il y a une évolution, qu'il y a quelque chose qui va mieux, vous pouvez vous poser la question de dire « Est-ce que ce thérapeute me convient ? Est-ce que c'est le bon thérapeute pour moi ?» Là encore, ça ne veut pas dire que le thérapeute n'est pas compétent. Est-ce que ce thérapeute est le bon thérapeute pour moi ? Est-ce que c'est celui qui me convient ? Alors, le dernier point, qui est, je l'avoue, mon cheval de bataille, c'est un thérapeute qui a fait obligatoirement un travail personnel, une thérapie personnelle. Alors ça, je vous le dis, vous n'êtes franchement pas obligé du tout de me croire. Et donc, la suite de mon exposé, ça va être justement de vous expliquer pourquoi c'est si important que le thérapeute ait fait un travail personnel. Parce que finalement, travail personnel du thérapeute, pourquoi c'est si important pour le patient ? Alors, quand nos patients nous parlent, au travers de ce qu'ils nous disent, au travers des séances, etc., ben, y a forcément des choses dans ce qu'ils vont nous dire qui vont retentir en nous. Alors, qu'est-ce que c'est ce retentissement ? Jacques Salomé, il en a parlé. En fait, c'est quelque chose que nous dit le patient qui, en soi, n'est pas quelque chose d'agressif, qui, en soi, n'est pas quelque chose de qui devrait poser problème. Mais nous, quand on entend ça, ça réveille en nous des blessures, ça réveille en nous des souffrances, ça réveille en nous quelque chose qui résonne en nous, mais pas de façon agréable. Alors, au plus on aura travaillé sur soi, au plus ce que vont nous dire nos patients, ça ne nous atteindra que très peu. Parce qu'en fait, nos souffrances, nos problèmes, etc., on les aura réglés. Et donc là, ben, ce que nous diront nos patients, ça résonnera très faiblement en nous. Par contre, un thérapeute qui n'a pas fait de travail sur lui, forcément, il aura dans les propos que vont lui tenir ses patients des choses qui vont faire violence en lui, qui vont lui réveiller des vieilles souffrances. Et à ce moment-là, un thérapeute qui se trouve dans une situation comme ça, il n'est plus en mesure d'écouter son patient. Il n'écoute plus que la souffrance qui est réveillée en lui. Il n'écoute plus que le retentissement des paroles de son patient en lui. Et là, vous comprenez bien que s'il est à l'écoute de sa propre souffrance, ce thérapeute, il n'est plus à l'écoute de son patient et il n'est plus du tout dans la thérapie du patient. Il est presque, je dirais, pas dans sa thérapie, mais on n'en est pas loin, quoi. Donc là, c'est pas possible, qu'on ne peut pas travailler avec des patients comme ça. Et en fait, par rapport à ce retentissement, pour vous expliquer un peu mieux ce que c'est, je vais vous parler d'émotions. Parce qu'en fait, on a tous, ça nous est tous arrivé de vivre, par exemple, un événement où par exemple, quelqu'un nous a parlé, où on a vécu une situation ou quelque chose. Et en fait, avec le recul, cette situation, elle n'avait rien de dramatique. Ce que nous a dit la personne, il n'y avait rien de grave, il n'y avait rien d'agressif, etc. Mais nous, sur le moment, quand ça s'est passé, on a ressenti une émotion. On était dans la colère ou dans la violence, ou on a fondu en larmes, ou vraiment on a eu une émotion extrêmement forte. Alors qu'avec le recul, on se dit, mais quand même, c'est... Je ne comprends pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce que m'a dit cette personne ou dans ce que j'ai vécu. Eh bien, vous pouvez vous dire qu'à chaque fois que votre émotion... elle est démesurée par rapport à ce qui s'est passé. Chaque fois que votre émotion est démesurée par rapport à ce qui s'est passé, c'est que ce qui s'est passé a fait écho en vous et qu'il y a une souffrance qui est réveillée. Et moi, au gré de ma thérapie, c'est vrai que justement, ça m'a beaucoup aidée, ça. Parce que je savais que j'avais quelque chose à travailler quand justement je réagissais de façon très violente. Et là, c'était un petit peu un clignotant pour moi. Et je disais, aïe, là, il y a quelque chose, il y a encore un nœud, là, tu as besoin d'aller travailler parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà pour tout ce qui est retentissement. Alors, également, dans la thérapie, il y a quelque chose qui se joue, vous avez dû en entendre parler, c'est des mécanismes de transfert et de contre-transfert. Alors, les mécanismes de transfert et de contre-transfert, c'est des mécanismes qui ne sont pas uniquement en thérapie, c'est des mécanismes qui sont en jeu dès lors qu'il y a une relation d'aide. C'est-à-dire qu'avec le médecin, il y a du transfert et du contre-transfert. Avec une infirmière qui vient vous faire des soins, il y a du transfert et du contre-transfert. Donc, c'est des mots un peu barbares, mais ça existe dès qu'il y a une relation d'aide entre une personne et une autre. Alors, le transfert, je vais vous donner la définition vraiment... stricto sensus, et puis après je vous expliquerai mieux ce que c'est. Alors, le transfert, c'est un processus par lequel vont s'actualiser des désirs inconscients du patient qui n'ont pas pu l'être dans sa vie passée. Et ce patient-là, en fait, il cherche à satisfaire ces désirs-là, qui sont inconscients et qui sont issus de son passé, dans la relation thérapeutique avec son thérapeute. Et le contre-transfert, c'est la réaction du thérapeute face au transfert de son patient. Alors là aussi, plus le thérapeute a travaillé sur lui, Et plus le contre-transfert, il va être géré, il va être analysé, il va être maîtrisé, il va être vraiment complètement, on ne dit pas complètement parce qu'on n'est que des humains, donc il va être le plus maîtrisé et le plus géré possible. Donc, d'où l'intérêt de la thérapie du thérapeute. Alors, pour vous donner un exemple, parce que le transfert, à chaque fois que je l'explique autour de moi, tout le monde me dit « Mais qu'est-ce que c'est ? On n'a rien compris. C'est quoi ton truc ? Là, on ne comprend pas. » Alors, je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Imaginez une personne qui a eu une mère que Winnicott appellerait une mère qui n'est pas suffisamment bonne, c'est-à-dire une mère qui n'apporte pas suffisamment à son enfant de reconnaissance, de valorisation, qui ne l'aide pas bien à grandir psychiquement, à se construire, qui au lieu de lui faire confiance, de le laisser faire peu à peu, de lui donner de l'autonomie, etc., une mère qui ne fait pas tout ça. Et donc l'enfant, il arrive à l'âge adulte avec des désirs à un niveau inconscient, bien sûr, d'une mère qui aurait été meilleure pour lui, qui aurait plus répondu à sa demande, qui lui aurait plus apporté de reconnaissance. Eh bien, ce patient-là, quand il va arriver en thérapie, ça peut arriver que dans le transfert, il va demander, donc à un niveau inconscient, il va demander à son thérapeute, même si c'est un homme, hein, je veux dire, c'est vraiment un niveau inconscient et symbolique, il va demander à son thérapeute de devenir sa mère et de lui apporter, de satisfaire en fait tous ses besoins de reconnaissance, d'estime, de valorisation qu'il n'a pas obtenu par son parent. Il va venir le chercher là en thérapie. Et le thérapeute, à un niveau symbolique, il va devenir la mère de ce patient. Mais c'est un niveau symbolique. Hein. Donc ça peut être tout à fait un thérapeute homme, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour ce qui est du transfert et du contre-transfert. Alors, est liée à ce transfert et ce contre-transfert une autre notion, qui est la notion de pouvoir. Et on entend beaucoup parler de ça en ce moment et on nous fait très peur et on nous dit « Oh là là, mais les thérapeutes, les psychothérapeutes, il y en a qui sont dans des sectes, il y a des gourous et ils vous manipulent. » Et bon. Donc je veux dire, moi quand j'écoute tout ça, moi si j'étais patient, franchement, j'aurais envie que d'une chose, c'est de m'en aller parce que ils nous font drôlement peur en ce moment avec tout ça. Et en fait, donc je vais vous parler du pouvoir. Alors, le pouvoir, je ne vais sûrement pas vous dire que le thérapeute, il n'en a pas, parce que si je vous disais ça, je vous mentirais, et ce n'est pas le but. Donc, le thérapeute, il a un pouvoir. Et ce pouvoir, en fait, c'est le patient qui lui donne par le biais du transfert. Alors, ce qui est dangereux, ce n'est pas le pouvoir, parce que le pouvoir en soi, ce n'est pas dangereux du tout pour moi. Ce qui est dangereux, c'est le thérapeute, qu'est-ce qu'il va en faire de ce pouvoir ? Et en fait, là, le thérapeute, il peut être dans deux dynamiques. Il peut être dans la dynamique de pouvoir pour, donc là c'est vraiment j'accueille, je tends la main, donc c'est le pouvoir pour, ou il peut être dans le pouvoir sur, et là je vous fais bien le geste, c'est-à-dire je suis sur l'autre, je prends pouvoir sur l'autre. Et c'est ça qui est dangereux. Donc si le thérapeute il est en pouvoir pour, il va mettre ce pouvoir au service de son patient. C'est-à-dire qu'il va se servir de ce pouvoir pour guider son patient, pour le faire aller vers le meilleur de lui-même, pour le faire aller là où il veut aller, pour lui donner de la confiance, pour lui donner que du positif. Il va mettre de côté complètement ses idées, ses valeurs, ses jugements. Il va mettre de côté qui il est en tant qu'être humain pour être vraiment à l'écoute de son patient, de respecter ses idées, ses valeurs, ses jugements. Il va complètement rentrer dans le cadre de référence de son patient. Et là, on a un pouvoir pour, c'est-à-dire un pouvoir qui est là au service du patient. Par contre, si on a un pouvoir sur, c'est de la prise de pouvoir. Donc là, effectivement, c'est absolument pas bénéfique pour le patient, parce que là, en fait, on cherche à prendre pouvoir, on cherche à avoir le pouvoir sur le patient. Et bien souvent, quand on cherche ça, c'est parce qu'en fait, le thérapeute cherche une reconnaissance dans ce patient-là. Parce que c'est à un niveau narcissique, c'est très sympa pour un thérapeute d'avoir un patient qui a besoin de lui. Narcissiquement et pour son ego, c'est super d'avoir un patient qui a besoin de lui. Mais ça, ça ne va pas dans l'intérêt du patient. Parce que pour moi, un vrai thérapeute, il est heureux le jour où son patient n'a plus besoin de lui, le jour où il a acquis suffisamment d'autonomie pour être heureux dans la vie, pour pouvoir faire ses choix tout seul. Et je dirais que c'est Pour donner une image, c'est un peu comme les parents. C'est-à-dire que pour moi, un bon parent, c'est celui qui accompagne son enfant et qui est capable de lui montrer comment faire, qui est capable de le guider, mais qui, autant qu'il le peut, ne fait pas à sa place. Parce que l'enfant, c'est en faisant lui-même qu'il apprend. Donc il va le guider, il va l'accompagner. Chaque fois qu'il y a une difficulté, ben, il va en parler, etc. Mais il ne va sûrement pas faire à la place de l'autre. Parce que faire à la place de l'autre, c'est le rendre dépendant. Parce que cette chose-là, ben, il ne sera jamais autonome pour la faire. Et il aura toujours besoin de l'autre pour la faire. Et donc, moi, j'associe ce pouvoir sur, qui est vraiment quelque chose de négatif, avec un manque de reconnaissance, un manque de construction narcissique de la part du thérapeute. C'est-à-dire que si le thérapeute a une estime de lui suffisamment construite, si ce regard de soi sur soi, justement, il est suffisamment solide, suffisamment construit, il n'a pas besoin de mettre son patient sous dépendance, il n'a pas besoin que son patient ait besoin de lui, il est au contraire heureux quand son patient lui dit ben, « je pense que j'ai fini ma thérapie parce que maintenant je suis bien ». Et là, il se dit ben, « on a fait du bon boulot ». Et là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment positif pour lui. Donc là, c'est vraiment la différence entre les deux. Alors, il y a une phrase que je voudrais vous lire aussi par rapport à la notion du pouvoir. Dans le texte, il parle de puissance, mais en fait, ça rejoint la notion de puissance et la notion de pouvoir. Alors, le langage de tous les jours nous livre une clé. Il parle de faire 12 violences à quelqu'un quand on le pousse avec force à faire ce qu'il hésite à faire, n'ose pas faire ou s'interdit de faire, alors qu'au fond, il y aspire. Donc là, on est vraiment en pouvoir pour. C'est-à-dire qu'on se sert de ce pouvoir pour vraiment amener la personne là où elle a envie d'aller, dans son sens, vraiment en l'accompagnant. Alors que la violence vise à annihiler la volonté propre, donc là, on est vraiment en pouvoir sûr, la puissance, cette douce violence, s'offre pour la lui restituer sa propre volonté à un niveau fondamental. Voilà, donc c'est quasiment terminé. Alors, pour finir et avant d'aborder les questions, j'avais envie de vous lire le texte d'une chanson de Florent Pagny qui s'appelle « Est-ce que tu me suis ?» Donc, je pense que tout le monde quasiment, enfin, beaucoup de personnes doivent la connaître. Alors, j'ai enlevé les refrains et tout parce qu'on n'est pas dans un cours de chant. Mais l'idée, c'était, je voulais vous lire les paroles parce que je trouve qu'elles sont très très belles et à un niveau symbolique elles parlent vraiment de ce qu'est un travail en thérapie, à un niveau symbolique elles donnent beaucoup d'images sur ce que c'est. Donc on va commencer la chanson. Je vais là où finissent les impasses, au fond des miroirs, au-delà des glaces. Je vais là où les pentes sont plus raides. Je vais là où on ne sait pas le tiède. Me suivrais-tu dans mes nuits d'encre, quand le phare est éteint, si tu n'avais qu'à prendre ma main? Me suivrais-tu dans les nuits cendres, où tout brûlé n'est rien, tant que tes yeux chercheront les miens? Je vais chercher mes îles et mes trésors. Où sont-ils? Je ne sais pas encore. Je vais où le feu brûle, où le froid glace. Je vais là où les faux semblants s'effacent. Je vais au bout, là où s'échouent les vagues, sur quelle rive, au creux de quelle plage. J'y vais pour de vrai, j'y vais pour toujours. J'y vais pas pour des mois, pour ces amours, d'un tour. Je sais ça, et tu sais aussi. Voilà, donc avant de passer aux questions, ce que je vous propose, vous avez... Alors... Ben on va passer aux questions. Alors, en fait, l'idée, c'était que je voulais faire le tirage au sort pour faire gagner le livre. Alors, pendant qu'on va ramasser vos papiers pour faire le tirage au sort, voilà. Donc, moi, si vous voulez me rencontrer après la conférence, je vous le dis dès maintenant, comme ça, ce sera fait, j'oublierai pas. Donc après la conférence, je serai au stand B19, qui est le stand Coaching Intuition, et c'est en fait le stand de l'Union Formation. Voilà, donc s'il y en a qui veulent venir m'entretenir de problèmes un peu personnels, qu'ils n'ont pas envie d'en parler comme ça dans la salle, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Oui? Vous voulez le micro? Non? Le père biologique? Alors, le même rôle que la mère? Non, c'est des exemples. Oui, alors c'est des exemples que j'ai donnés. Quand je parle de mère suffisamment bonne, c'est parce que en fait, l'enfant, quand il est tout petit, vraiment tout petit, on sait que la relation fondamentale, c'est la relation avec la mère. C'est-à-dire que l'enfant, quand il naît, il reconnaît l'odeur de sa mère, il reconnaît la voix de sa mère. Le père, bien sûr, qui s'inscrit après dans son quotidien, il s'inscrit dans sa vie un petit peu plus tard. Et Winnicott, quand il a parlé de mère suffisamment bonne, c'était par rapport à ça, c'était par rapport à ce lien fondamental avec la mère dès le début. Mais le père a un rôle aussi fondamental que la mère, bien évidemment. Hein. Le père, il a, en fait, le père, en psychanalyse, il a vraiment le rôle de celui qui met les règles, de celui qui met les interdits, de celui qui pose l'autorité, de celui qui pose la norme. En fait, le père, symboliquement, en termes psychanalytiques, je dirais qu'il est un peu le représentant du surmoi. Donc, le surmoi, c'est les règles, c'est les interdits, c'est la loi, c'est tout ça. Donc, sans rentrer dans le détail du surmoi, mais voilà, en gros, c'est ça. Comment ? Alors, s'il ne tient pas son rôle, après, on est dans de l'être humain. Donc, moi, je ne vais pas vous faire un schéma de dire un père qui ne tient pas son rôle, il va se passer ça. Chaque cas, c'est un cas particulier. Ça peut donner, des personnes qui sont en manque de repères, d'accord ? Ça peut donner donc des personnes qui sont en manque de repères, c'est-à-dire qui n'ont pas les limites. Les limites n'ont pas été posées. Et donc, c'est difficile parce que l'adolescent, l'adulte, est en manque d'interdit de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et voilà, ça, c'est une des possibilités. Mais après, on est dans de l'humain, donc il n'y a pas de règle absolue. Ça peut être complètement différent. Hein. Oui ? Alors, quand vous avez des questions par rapport à votre thérapeute, moi, je vous engage vivement à poser des questions. N'hésitez pas. Alors, c'est pas facile, mais je veux dire, il n'y a rien qui l'interdit. Je comprends tout à fait que ce ne soit pas facile. Effectivement, ce n'est pas facile. Mais il n'y a rien qui vous l'interdit. Et c'est peut-être un bon test. Parce que moi, franchement, en thérapie, quand il y a un patient qui me demande, je suis super à l'aise avec ça. Je n'ai pas de tabou. Hein. Et je suis super à l'aise. Et j'estime qu'en tant que thérapeute, j'ai pas à m'offusquer d'une question comme ça. Attendez, c'est sa thérapie, c'est son porte-monnaie. Il a le droit de savoir où il met les pieds quand même. C'est le minimum. Donc moi, j'ai pas d'interdit par rapport à ça. Enfin, franchement, moi, ça me. Vous posez la question. Le psychiatre aussi, on peut poser la question. Bien sûr. Oui. Vous pouvez lui demander s'il est formé à la psychothérapie, s'il a fait une approche de psychothérapie en plus de ses études de médecine, etc. Maintenant, il va peut-être vous envoyer balader. Je sais pas. Après. Oui. ça, je...
oui.
Oui.
Un psychiatre qui devient psychanalyste.
Oui.
Il garde toujours sa possibilité de faire des ordonnances, de donner des
oui.
médicaments.
Oui. Oui. Oui, tout à fait.
Psychiatre et psychanalyste.
Exactement. Oui, il peut. Sauf si après il a un problème avec le conseil de l'ordre qui veut plus. Mais sinon, en général, enfin, en plus moi celui chez qui j'ai fait ma thérapie justement, il était psychiatre et psychanalyste. Et moi j'ai fait ma thérapie avec lui, mais il était psychiatre. Mais bon, moi j'ai pas eu de remboursement parce que ça. Le remboursement peut aussi perturber le travail thérapeutique. Ah non, c'est la même thérapie. Hein. C'est quand on fait une thérapie.
C'est...
Oui, voilà. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Alors, comment ça se passe? C'est vrai que c'est super intéressant ce que vous dites. Parce qu'en plus, la première séance, c'est vraiment une séance clé. Alors, moi, j'aime bien donner une image. C'est mes patients, quand ils viennent me voir, bon, souvent, c'est du bouche à oreille. Hein, donc, bon, en général, c'est la copine, c'est bon. Alors, quand ils arrivent, comme ils ne me connaissent pas, parce que même si on leur a parlé, ben, ils ne me connaissent pas, ils arrivent, je les sens, ils me regardent, qui c'est celle-là, ils vont s'asseoir, ils s'assoient sur le bout du fauteuil, je les sens, ils sont vraiment sur la réserve. Donc, bon, ben, la séance commence. Moi, Alors, moi, en général, ben, je demande, je dis bonjour à la personne, bien sûr. Moi, je demande, en général, la première question que je pose, c'est qu'est-ce qui vous amène à venir me voir ? Déjà, en principe, si la personne est là, c'est qu'il y a une envie, il y a une demande, il y a quelque chose qui l'a amené à venir là. Donc déjà, il peut dire, c'est aussi une demande, je viens vous voir parce que je ne suis pas bien, mais je ne sais pas pourquoi. C'est une forme de demande. Mais je veux dire, ce n'est pas grave, il n'est pas obligé de savoir pourquoi. En tout cas, ce qu'il sait, c'est qu'il ne va pas bien. Ça, déjà, il le sait, qu'il ne va pas bien, qu'il n'est pas... Si déjà il fait la démarche de venir, c'est que la demande, c'est je ne vais pas bien. Même si ce n'est pas pourquoi il ne va pas bien, mais en tout cas, il sait qu'il ne va pas bien. Et après, moi, c'est mon rôle après de... Voilà. Et en fait, pour vous donner l'image, c'est que, donc, je vous disais, ils arrivent, ils sont pas très bien, parce qu'ils ne me connaissent pas, etc. Et souvent, en fait, quand ils repartent, très souvent, et ça, franchement, c'est mon plus beau cadeau, c'est quand j'ai l'impression de leur avoir passé une espèce de fer à repasser sur le visage, et je les vois, ils sont déjà plus détendus, ils sont... Parce que c'est vrai que des fois, on se fait une image tellement, pas négative, mais... Oui, particulière, en fait, on ne s'imagine pas qu'on va rencontrer un être humain, quoi. On se fait une image un peu fantasmatique, et la première séance, elle est là pour apaiser beaucoup aussi par rapport à ça. Oui. Oui, oui. Alors ça, c'est très intéressant, oui. Alors c'est très intéressant, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous disais comment choisir son psy, un psy où vous êtes bien. C'est-à-dire que son psy, c'est bon pour vous que vous puissiez tout lui dire. Si ça, vous vous dites, oh là là, ça j'ose pas, puis ça, oh non, ça je vais lui parler, qu'est-ce qu'il va me dire, ça j'ose pas non plus, puis ça j'ose pas, ça va pas être bon pour vous, je veux dire, justement. C'est pas la première séance, souvent, que les patients parlent de leur intimité parce qu'il y a de la retenue, on ne se connaît pas. Mais au fur et à mesure des séances, c'est justement de pouvoir créer cet espace thérapeutique de confiance, de paix, de calme, où le patient va sentir qu'il va être entendu, qu'il ne va pas être jugé, qu'il va être accueilli dans sa demande, qu'il va être vraiment complètement accueilli tel qu'il est. Et ça, je veux dire, si on le fait vraiment et que c'est comme ça qu'on voit les choses, le patient, il le ressent vite. Hein, au bout de quelques séances, il a vraiment envie de parler de ce qui le touche vraiment. Il a les tabous, les retenues qu'il pourrait avoir, elles s'estompent petit à petit. Oula. Allez-y. Oui. Oui. Alors, la durée de la séance, c'est vrai que chaque thérapeute, je dirais, fait un peu à sa sauce. Moi, perso, les séances, elles ne durent pas moins d'une heure. Hein, parce que je trouve qu'en moins d'une heure, je sais pas, moi, en tout cas, je n'ai pas le temps d'instaurer une espèce de climat, une espèce de renouer avec mon patient. Parce que je ne l'ai pas vu la veille quand même, donc il s'est écoulé du temps. J'ai besoin de recréer du lien, de renouer quelque chose, que le patient se mette à l'aise, qu'il y ait des choses qui se passent, quoi. Donc, moi, perso, mes séances durent une heure. Maintenant, après, ça dépend des thérapeutes, ça. Et il faut faire ce que vous ressentez. Si 20 minutes vous sentez que ça ne vous va pas, il ne faut pas rester. Faut faire... Écoutez-vous. Écoutez votre ressenti. Écoutez-vous. Faites comme vous le ressentez.
Qui sait quand une thérapie arrive à sa fin et qui détermine quand elle est finie ?
Ah, c'est une super bonne question, ça. Eh bien, en fait, moi, dans ma vision personnelle, je fais toujours confiance au patient. Donc, c'est le patient qui sait quand il a envie d'arrêter. Et il le sait. Alors, quand est-ce qu'il le sait ? C'est différent pour chaque personne.
Il vous le déclare.
Oui. Et puis, vous savez, une thérapie, on peut l'arrêter à un instant T, parce qu'on on reste quelques mois parce qu'on est bien comme ça. Et puis il y a des événements de vie où il y a des choses qui remontent. Et puis quelques mois après, ben, on a envie d'y retourner.
Est-ce que c'est le thérapeute des fois qui dit qu'on arrête ?
Moi, ça m'est jamais arrivé. Peut-être que ça... Oui, moi, c'est toujours le patient qui me demande d'arrêter, qui me demande de continuer. Même pour la reprise de rendez-vous, il me semble que le minimum, quand même, c'est de respecter le patient et de lui dire à chaque séance, est-ce qu'on reprend rendez-vous ? Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas tacite reconduction. Hein, je veux dire, il peut avoir le droit de dire, ben là, je n'ai plus envie, pendant 2 mois, c'est bon, j'ai suffisamment fait de remue-ménage, maintenant, je vais prendre un peu cool. Non. 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 Alors, il faut qu'on finisse là, c'est ça ? Alors, je vais procéder au tirage au sort pour le... Ouais, mais alors, je vais être au stand B19, mais je vais y rester un long moment. Donc, n'hésitez pas, vous venez me voir, on pourra parler, il n'y a aucun souci. J'ai vraiment du temps, donc, pour ne pas perturber la conférence d'après. Je suis là demain à 12h45, je fais la même conférence. Et je serai au stand aussi B19. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, il me faut une main innocente. Ah, la main innocente, c'est vous, il paraît. Il y a tous les papiers, là ? Bon, alors, allez-y.
Ah, vous regardez pas les noms, hein, pas de triche. Attention, hein.
Alors, ah, c'est une Martine, c'est une qui a le même prénom que moi. Mais c'est pas moi, je me suis pas fait gagner le livre, zut, alors. Alors, Giovannoni Martine. Donc, en fait, je vous ai apporté 3 livres, et puis je vous laisse choisir comme ça, en fonction de... Vous laissez guider votre intuition.
Merci.
Merci à vous tous, et puis au plaisir de vous voir en B19. À bientôt. Voilà, alors, il y a plusieurs livres. Alors... Celui-là, c'est le guide de la personne heureuse, c'est Vanessa Mielzarek, je ne l'ai pas lu. Après, il y a sur la spiruline, et après, il y a c'est un élève de Jacques Salomé sur le couple, c'est un très beau livre. Donc, je vous laisse choisir, prenez ce que vous voulez.